Chapitre 8. Comment Don Modeste Goranflot bénit le roi à son passage devant le prieuré des Jacobins. Ernoton sortit le cœur assez gros, mais la conscience assez tranquille. Il avait eu ce singulier bonheur de déclarer son amour à une princesse et de faire, par la conversation importante qui lui avait immédiatement succédé, oublier sa déclaration, juste assez pour qu'elle ne fît pas de sort au présent et qu'elle portât fruit pour l'avenir. Ce n'était pas tout. Il avait encore eu la chance de ne pas trahir le roi, de ne pas trahir monsieur de Mayenne, de ne point se trahir lui-même. Donc il était content, mais il désirait encore beaucoup de choses, et parmi ces choses, un prompt retour à Vincennes pour informer le roi. Puis le roi, informé, pour se coucher et songer. Songer, c'est le bonheur suprême des gens d'action, c'est le seul repos qu'ils se permettent. Aussi, à peine hors de la porte de Belesba, Ernoton mit-il son cheval au galop. Puis, à peine eut-il encore fait 100 pas au galop de ce compagnon si bien éprouvé depuis quelques jours, qu'il se vit tout à coup arrêté par un obstacle que ses yeux, éblouis par la lumière de Belesba et encore mal habitués à l'obscurité, n'avaient pu apercevoir et ne pouvaient mesurer. C'était tout simplement un gros de cavalier qui, des deux côtés de la route, se refermant sur le milieu, l'entourait et lui mettait sur la poitrine une demi-douzaine d'épées et autant de pistolets et de dagues. C'était beaucoup pour un seul. « Oh, dit Ernoton, on vole sur le chemin à 1 lieue de Paris, peste soit du pays, le roi a un mauvais prévôt, je lui donnerai le conseil de changer. » « Silence, s'il vous plaît, dit une voix qu'Ernoton crut reconnaître. Votre épée, vos armes, et faisons vite. » Un homme prit la bride du cheval, deux autres dépouillèrent Ernoton de ses armes. « Peste, quels habiles gens !» murmura Ernoton. Puis, se retournant vers ceux qui l'arrêtaient, « Messieurs, dit-il, vous me ferez au moins la grâce de m'apprendre. » « Hé, mais c'est monsieur de Carminges, dit le détrousseur principal, celui-là même qui venait de saisir l'épée du jeune homme et qui la tenait encore. « Monsieur de Pincornet, s'écria Ernoton, oh, fi, le vilain métier que vous faites là !»« J'ai dit silence !» répéta une voix retentissante à quelques pas. « Qu'on mène cet homme au dépôt !» Eh, monsieur de Sainte-Maline, dit père Ducasse de Pincornet, cet homme que nous venons d'arrêter... « Eh bien, c'est notre compagnon, monsieur Ernoton de Carminges. »« Ernoton, ici ?» s'écria Sainte-Maline, pâlissant de colère. « Que fait-il là ?»« Bonsoir, monsieur, » dit tranquillement Carminges. « Je ne croyais pas, je l'avoue, me trouver en si bonne compagnie. » Sainte-Maline resta muet. « Il paraît qu'on m'arrête, » continua Ernoton, « car je ne présume point que vous me dévalisiez. » « Diable, diable !» grommela Sainte-Maline, « l'événement n'était pas prévu. »« De mon côté non plus, je vous jure, » dit en riant Carminges. « C'est embarrassant. Voyons, que faites-vous sur la route ?»« Si je vous faisais cette question, monsieur de Sainte-Maline, me répondriez-vous ?»« Non. »« Trouvez bon alors que j'agisse comme vous agiriez. »« Alors vous ne voulez pas dire ce que vous faisiez sur la route ?» Ernoton sourit, mais ne répondit pas. « Ni où vous alliez ?» Même silence. « Alors, monsieur, dit Sainte-Maline, puisque vous ne vous expliquez point, je suis forcé de vous traiter en homme ordinaire. »« Faites, monsieur, seulement, je vous préviens que vous répondrez de ce que vous aurez fait. »« À monsieur de Loignac ?»« À plus haut que cela. »« À monsieur d'Épernon ?»« À plus haut encore. »« Eh bien, soit, j'ai ma consigne, je vais vous envoyer à Vincennes. »« À Vincennes, à merveille, c'est là que j'allais, monsieur. » « Je suis heureux, monsieur, dit Sainte-Maline, que ce petit voyage cadre si bien avec vos intentions. » Deux hommes, le pistolet au poing, s'emparèrent aussitôt du prisonnier qui conduisirent à deux autres hommes placés à 500 pas des premiers. Ces deux autres en firent autant, et de cette sorte Ernoton eut, jusque dans la cour même du donjon, la société de ses camarades. Dans cette cour, Carminges aperçut 50 cavaliers désarmés qui, l'oreille basse et la pâleur au front, entourés de 150 chevaux légers venus de Nogent et de Brie, déploraient leur mauvaise fortune et s'attendaient à un vilain dénouement d'une entreprise si bien commencée. C'étaient nos 45 qui, pour leur entrée en fonction, avaient pris tous ces hommes, les uns par la ruse, les autres de vive force, tandis qu'en s'unissant 10 contre 2 ou 3, tantôt en accostant gracieusement les cavaliers qu'ils devinaient être redoutables, et en leur présentant à brûle-pourpoint le pistolet, quand les autres croyaient tout simplement rencontrer des camarades et recevoir une politesse. Il en résultait que pas un combat n'avait été livré, pas un cri proféré, et qu'en une rencontre de 8 contre 20, un chef de ligueur qui avait porté la main à son poignard pour se défendre et ouvert la bouche pour crier, avait été bâillonné, presque étouffé et escamoté par les 45 avec l'agilité que met un équipage de navire à faire filer un câble entre les doigts d'une chaîne d'hommes. Or, pareille chose eût bien réjoui Ernoton s'il l'eût connu, mais le jeune homme voyait et ne comprenait pas ce qui rembrunit un peu son existence pendant 10 minutes. Cependant, lorsqu'il eut reconnu tous les prisonniers auxquels on l'agrégeait, « Monsieur, dit-il à Sainte-Maline, je vois que vous étiez prévenu de l'importance de ma mission, et qu'en galant compagnon, vous avez eu peur pour moi d'une mauvaise rencontre, ce qui vous a déterminé à prendre la peine de me faire escorter. » Maintenant, je puis vous le dire, vous aviez grande raison. Le roi m'attend, et j'ai d'importantes choses à lui dire. J'ajouterai même que, comme sans vous, je ne fusse probablement point arrivé, j'aurai l'honneur de dire au roi ce que vous avez fait pour le bien de son service. » Sainte-Maline rougit comme il avait pâli. Mais il comprit, en homme d'esprit qu'il était, quand quelque passion ne l'aveuglait point, qu'Ernoton disait vrai et qu'il était attendu. On ne plaisantait pas avec messieurs de Loignac et d'Épernon. Il se contenta donc de répondre « Vous êtes libre, monsieur Ernoton, enchanté d'avoir pu vous être agréable. » Ernoton s'élança hors des rangs et monta les degrés qui conduisaient à la chambre du roi. Sainte-Maline l'avait suivi des yeux, et à moitié de l'escalier, il put voir Loignac qui accueillait monsieur de Carminges et lui faisait signe de continuer sa route. Loignac, de son côté, descendit, il venait procéder au dépouillement de la prise. Il se trouva, et ce fut Loignac qui constata ce fait, que la route, devenue libre grâce à l'arrestation des 50 hommes, serait libre jusqu'au lendemain, puisque l'heure où ces 50 hommes devaient se trouver réunis à Belle-Esba était passée. Il n'y avait donc plus péril pour le roi à revenir à Paris. Loignac comptait sans le couvent des Jacobins et sans l'artillerie et la mousqueterie des bons pères, ce dont d'Épernon était parfaitement informé, lui, par Nicolas Poulain. Aussi, lorsque Loignac vint dire à son chef « Monsieur, les chemins sont libres », d'Épernon lui répliqua « C'est bien, l'ordre du roi est que les 45 fassent 3 pelotons, un devant et un de chaque côté des portières. » Peloton assez serré pour que le feu, s'il y a feu par hasard, n'atteigne pas le carrosse. « Très bien, répondit Loignac, avec l'impassibilité du soldat, mais quant à dire feu, comme je ne vois pas de mousquet, je ne prévois pas de mousquetade. Au Jacobin, monsieur, vous ferez serrer les rangs, dit d'Épernon. » Ce dialogue fut interrompu par le mouvement qui s'opérait sur l'escalier. C'était le roi qui descendait, prêt à partir. Il était suivi de quelques gentilshommes, parmi lesquels, avec un serrement de cœur facile à comprendre, Sainte-Maline reconnut Ernoton. « Messieurs, demanda le roi, mes braves 45 sont-ils réunis ?»« Oui, sire, dit d'Épernon, en lui montrant un groupe de cavaliers qui se dessinait sous les voûtes. « Les ordres ont été donnés, ils seront suivis, sire. »« Alors partons, dit sa majesté. » Loignac fit sonner le boutecel. L'appel fait à voix basse, il se trouva que les 45 étaient réunis, pas un ne manquait. On confia aux chevaux légers le soin d'emprisonner les gens de Menneville et de la duchesse, avec défense, sous peine de mort, de leur adresser une seule parole. Le roi monta dans son carrosse et plaça son épée nue à côté de lui. Monsieur d'Épernon jura « Parfandius » et essaya galamment si la sienne jouait bien du fourreau. 9 heures sonnaient au donjon, on partit. Une heure après le départ d'Ernoton, M. de Menneville était encore à la fenêtre d'où nous l'avons vu essayer, mais vainement, de suivre la route du jeune homme dans la nuit. Seulement, cette heure écoulée, il était beaucoup moins tranquille, et surtout un peu plus enclin à espérer le secours de Dieu, car il commençait à croire que le secours des hommes lui manquait. Pas un des soldats n'avait paru. La route, silencieuse et noire, ne retentissait, à des intervalles réguliers, que du bruit de quelques chevaux dirigés à toute bride sur Vincennes. À ce bruit, M. de Menneville et la duchesse essayaient de plonger leurs regards dans les ténèbres pour reconnaître leurs gens, pour deviner une partie de ce qui se passait ou savoir la cause de leur retard. Mais ces bruits éteints, tout rentrait dans le silence. Ce va-et-vient perpétuel, sans aucun résultat, avait fini par inspirer à Menneville une telle inquiétude qu'il avait fait monter à cheval un des gens de la duchesse avec ordre d'aller s'informer auprès du premier peloton de cavaliers qu'il rencontrerait. Le messager n'était point revenu. Ce que voyant, l'impatiente duchesse, elle, en avait envoyé un second, qui n'était pas plus revenu que le premier. Notre officier, dit alors la duchesse, toujours disposée à voir les choses en beau, notre officier aura craint de n'avoir point assez de monde, et il garde comme renfort les gens que nous lui envoyons. C'est prudent, mais inquiétant. Inquiétant, oui, fort inquiétant, répondit Menneville, dont les yeux ne quittaient pas l'horizon profond et sombre. Menneville, que peut-il donc être arrivé? Je vais monter à cheval moi-même, et nous le saurons, madame. Et Menneville fit un mouvement pour sortir. « Ah, je vous le défends !» s'écria la duchesse en le retenant. « Menneville, qui donc resterait près de moi? Qui donc connaîtrait tous vos officiers, tous nos amis, quand le moment sera venu? Ah, non, non, demeurez, Menneville. On se forge des appréhensions bien naturelles quand il s'agit d'un secret de cette importance. Mais, en vérité, le plan était trop bien combiné, et surtout tenu trop secret pour ne pas réussir. » 9 heures, dit Menneville, répondant à sa propre impatience plutôt qu'aux paroles de la duchesse. Et voilà les Jacobins qui sortent de leur couvent et qui se rangent le long des murs de la cour. Peut-être ont-ils quelque avis particulier, eux. Silence, s'écria la duchesse en étendant la main vers l'horizon. Quoi? Et silence, écoutez. On commençait d'entendre au loin un roulement pareil à celui du tonnerre. « C'est la cavalerie !» s'écria la duchesse. « Il nous l'amène ! Il nous l'amène !» Et passant, selon son caractère emporté, de l'appréhension la plus cruelle à la joie la plus folle, elle battit des mains en criant « Je le tiens ! Je le tiens !» Menneville écouta encore. « Oui, dit-il, oui, c'est un carrosse qui roule et des chevaux qui galopent. » Et il commanda à pleine voix « Hors des murs, mes pères, hors des murs !» Aussitôt, la grande grille du prieuré s'ouvrit précipitamment et, dans un bel ordre, sortirent les 100 moines armés à la tête desquels marchait Boromée. Ils prirent position en travers de la route. On entendit alors la voix de Gorenflot qui criait « Attendez-moi, attendez-moi donc, il est important que je sois à la tête du chapitre pour recevoir dignement sa majesté ». « Au balcon, sire prieur, au balcon !» s'écria Boromée. « Vous savez bien que vous devez nous dominer tous. L'Écriture a dit « Tu les domineras comme le cèdre domine l'hysope. Ah, »« C'est vrai, » dit Gorenflot, « c'est vrai, j'avais oublié que j'eusse choisi ce poste. Ah, heureusement que vous êtes là pour me faire souvenir, frère Boromée, heureusement !» Boromée donna un ordre tout bas, et 4 frères, sous prétexte d'honneur et de cérémonie, vinrent flanquer le digne prieur à son balcon. Bientôt, la route, qui faisait un coude à quelque distance du prieuré, se trouva illuminée d'une quantité de flambeaux, grâce auxquels la duchesse et Menneville purent voir reluire les cuirasses et briller des épées. Incapable de se modérer, elle cria « Descendez, Menneville, et vous me l'amènerez tout lié, tout escorté de garde. Mais oui, madame, dit le gentilhomme avec distraction, mais une chose m'inquiète. Laquelle? Je n'entends pas le signal convenu. À quoi bon le signal, puisqu'on le tient? Mais on ne devait l'arrêter qu'ici, en face du prieuré, ce me semble, dit Menneville. Oh, ils auront trouvé plus loin l'occasion meilleure. Je ne vois pas notre officier. Je le vois, moi. Où? Et cette plume rouge? Ventre bleu, madame. Quoi? Cette plume rouge? Eh bien, C'est monsieur d'Épernon, monsieur d'Épernon, l'épée à la main. On lui a laissé son épée, mais par la mort, il commande. À nos gens, il y a donc trahison. Et madame, ce ne sont pas nos gens. Vous êtes fou, Menneville. En ce moment, Loignac, à la tête du premier peloton des 45, brandissant une large épée, cria « Vive le roi !»« Vive le roi !» répondirent avec leur formidable accent gascon les 45 dans l'enthousiasme. La duchesse pâlit et tomba sur le rebord de la croisée comme si elle l'allait s'évanouir. Menneville, sombre et résolu, mit l'épée à la main. Il ignorait si, en passant, ces hommes n'allaient pas envahir la maison. Le cortège avançait toujours comme une trombe de bruit et de lumière. Elle avait atteint Belles-Bas et allait atteindre le prieuré. Borromée fit trois pas en avant. Loignac poussa son cheval droit à ce moine qui semblait, sous sa robe de laine, lui offrir le combat. Mais Borromée, en homme de tête, vit que tout était perdu et prit à l'instant même son parti. « Place, place !» cria rudement Loignac. « Place au roi !» Borromée, qui avait tiré son épée sous sa robe, remit sous sa robe son épée au fourreau. Gorenflot, électrisé par les cris, par le bruit des armes, ébloui par le flamboiement des torches, étendit sa dextre puissante et l'index et le médium étendu bénit le roi du haut de son balcon. Henri, qui se penchait à la portière, le vit et le salua en souriant. Ce sourire, preuve authentique de la faveur dont le digne prieur des Jacobins jouissait à la cour, électrisa Gorenflot, qui entonna à son tour un « Vive le roi !» avec des poumons capables de soulever les arceaux d'une cathédrale. Mais le reste du couvent resta muet. En effet, il attendait une toute autre solution à ces deux mois de manœuvre et à cette prise d'armes qui en avait été la suite. Mais Borromée, en véritable reître qu'il était, avait d'un coup d'œil calculé le nombre des défenseurs du roi, reconnu leur maintien guerrier. L'absence des partisans de la duchesse lui révélait le sort fatal de l'entreprise. Hésiter à se soumettre, c'était tout perdre. Il n'hésita plus, et au moment où le poitrail du cheval de Loignac allait le heurter, il cria « Vive le roi !» d'une voix presque aussi sonore que venait de le faire Gorenflot. Alors le couvent tout entier hurla « Vive le roi !» en agitant les armes. « Merci, mes révérends pères, merci !» cria la voix stridente de Henri III. Puis il passa devant le couvent, qui devait être le terme de sa course, comme un tourbillon de feu, de bruit et de gloire, laissant derrière lui Belles-Bas dans l'obscurité. Du haut de son balcon, caché par l'écusson de fer doré derrière lequel elle était tombée à genoux, la duchesse voyait, interrogeait, dévorait chaque visage sur lequel les torches jetaient leur flamboyante lumière. « Ah !» dit-elle avec un cri, en désignant un des cavaliers de l'escorte. « Voyez, voyez, Menneville !» Le jeune homme, le messager de monsieur le duc de Mayenne, au service du roi, s'écria celui-ci. « Nous sommes perdus, » murmura la duchesse. « Il faut fuir et promptement, madame, » dit Menneville. « Vainqueur aujourd'hui, le Valois abusera demain de sa victoire. »« Nous avons été trahis !» s'écria la duchesse. « Ce jeune homme nous a trahis. Il savait tout !» Le roi était déjà loin. Il avait disparu avec toute son escorte sous la porte Saint-Antoine, qui s'était ouverte devant lui et refermée derrière lui.